Kairoua Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 30 novembre 2022. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia. Les titres pour commencer. Journal de la Coupe du Monde d'Eric Manirakidza, Sénégal, Angleterre et Pays-Bas en huitième de finale après leurs victoires respectives contre l'Équateur, le pays de Galles et le Qatar, tandis que les États-Unis évincent l'Iran. Des Français arrêtés au Mali, Bamako les qualifie de criminels. Le médiateur ouest-africain Goodluck Jonathan arrive au Mali avant au sommet de la CEDEAO. En Côte d'Ivoire, début du procès de l'attentat de Grand Bassam en 2016. Arrivé hier soir aux États-Unis du président français Emmanuel Macron pour une visite d'État. Tout de suite, le journal de la Coupe du Monde d'Eric Manirakidza. Sénégal contre Angleterre, États-Unis contre Pays-Bas, telles sont les premières affiches des huitièmes du Mondial 2022. Les Anglais, Néerlandais et Sénégalais favoris ont obtenu leur qualification ce mardi au Qatar, où les Américains ont supplanté les Iraniens dans une affiche à fort retentissement géopolitique, Eric.
L'Afrique revient en huitième, Idrissa. Il a fallu des décennies au Sénégal avant de revoir la phase à élimination directe d'une Coupe du Monde, 20 ans après l'épopée de 2002 jusqu'en quart. Les champions d'Afrique se sont imposés 2-1 contre l'Équateur. La qualification du Sénégal redore le blason du football africain qui n'avait placé aucune équipe en huitième en 2018. Suivez le coup de sifflet de Jules Valentin Ngoué.
Bonjour. Dans une rencontre où il partait avec une longueur de retard, face à une équipe d'Équateur venue conserver son avance au Marquois, le Sénégal a gagné hier le premier duel des équipes africaines pour la qualification en huitième de finale de cette 22e Coupe du Monde au Qatar. Le but matinal marqué par Ismaïla Sarr sur pénalty a rapidement fait passer la pression dans le camp équatorien, mettant les Lions de la Teranga dans les dispositions tactiques qui leur conviennent le plus, à savoir installer un bloc avancé devant le rassurant gardien de but Edouard Mendy, faire apprécier leur qualité physique impressionnante, garder le contrôle des airs et empêcher ainsi les Sud-Américains d'installer durablement leur jeu collectif en gênant leur transmission. Les Sénégalais ont également su exploiter l'explosivité dissuasive de leurs contre-attaquants, la capacité de réaction de leurs joueurs décisifs, comme sur ce deuxième but de Koulibaly à la 68e minute après l'égalisation équatorienne qui changeait tout, mais aussi leur malice tactique pour tenir la baraque jusqu'à la fin de la rencontre. Tout ceci montre que les Sénégalais ont tiré des leçons de la gestion naïve de leur fin de match contre les Pays-Bas à la première journée. Cette fois-ci, ils ont atteint froidement leur objectif en professionnel. Un exemple qui doit inspirer les autres Africains qui descendent dans l'arène dès ce soir pour la même cause. À bientôt.
Les Lions sénégalais affronteront dimanche les Three Lions anglais, vice-champions d'Europe, qui ont validé leur qualification lancée vers la phase à élimination directe contre le pays de Galles. Dans le groupe B, les États-Unis ont brisé le rêve iranien d'une première qualification historique pour les huitièmes de finale d'une Coupe du Monde en dominant ce mardi la team Melli 1-0. USA, sacré match, s'est enthousiasmé le président Joe Biden en apprenant le résultat lors d'un déplacement dans le Michigan. Voilà les États-Unis en huitième de finale du mondial comme en 2010 et 2014. Une performance de bon augure au pays du soccer à 4 ans d'une Coupe du Monde co-organisée par le Canada et le Mexique. Mais si ce duel contre les Iraniens n'était pas un sommet footballistique, il a tout de même fait les gros titres en raison de sa forte portée symbolique et politique, mais disputé sans animosité particulière. Suivez quelques supporters américains.
C'est très éprouvant pour les nerfs. Je suis heureux d'obtenir cette victoire. Heureux pour les gars. Ils ont travaillé comme des fous. On ne peut pas dire assez sur les relations entre les deux pays. J'ai trouvé leurs fans très gracieux et sympathiques. Je leur souhaite la meilleure des chances pour l'avenir. Je ne peux pas dire à quel point je suis fier de nos gars. Nous passons au prochain tour. Allez, les États-Unis!
Très excité, mais je dois vous dire la vérité. Être ensemble avec les fans iraniens, c'était génial. Juste pour être une même famille mondiale. C'est ça, c'est ce dont il s'agit.
Il n'y avait pas de politique dans le stade ce soir. Tout le monde était ami. Je n'ai jamais pris autant de photos avec les gens que ce soir. Tout le monde était un ami ce soir. Tout le monde est là pour tout le monde.
Même son de cloche, côté supporter iranien.
En première mi-temps, je pense que l'Amérique était meilleure. Je pense que l'occasion a probablement un peu perturbé les Iraniens, car il s'agissait d'un match à élimination directe. Mais après la deuxième mi-temps, je pense qu'ils ont vraiment, vraiment bien joué. Des résultats équitables, je dirais.
C'était bien grâce à Dieu. Les deux équipes étaient fortes.
C'était bien, mais nous voulions gagner. Malheureusement, nous avons perdu. Mais les Iraniens sont toujours gagnants.
Ce ne sont que des bruits extérieurs. Quand c'est sur le terrain, rien de cela ne compte. Honnêtement, peut-être que nous avons applaudi un peu plus fort, peut-être qu'ils ont applaudi un peu plus fort, parce qu'il y a un peu de tension entre nous. Mais à la fin de la journée, c'est du football. Nous ne nous aimons pas, mais il n'y a pas eu de problème.
L'équipe de France, qui a déjà sa qualification en poche, affronte la Tunisie ce mercredi avec une dynamique à entretenir et des remplaçants à concerner, avant de basculer sur un huitième de finale de mondial à l'affiche encore indécise.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste de l'actualité, la France a confirmé hier l'arrestation de ressortissants français au Mali. Bamako a évoqué l'interpellation de 4 personnes, membres, selon la junte, d'un groupe de criminels et de narcotrafiquants. Michel Joseph.
Nous avons été informés de l'arrestation de ressortissants français au Mali. Nous suivons la situation avec l'ambassade de France à Bamako, a indiqué le Quai d'Orsay, qui n'a pas fourni de détails sur le nombre de personnes arrêtées. Lundi, le ministère malien de la Sécurité et de la Protection civile avait évoqué dans un communiqué une opération des forces de sécurité la veille pour libérer des otages et appréhender les membres d'un groupe de criminels et de narcotrafiquants qu'il est détenu à Missabougou, dans l'est de Bamako. 10 otages, dont 3 femmes et 3 enfants, ont été libérés et 4 criminels, dont un franco-sénégalais, 2 français et un franco-malien, ont été arrêtés, selon le communiqué. Les autorités maliennes affirment que les otages étaient détenus depuis le 18 novembre et que le groupe réclamait 900 millions de francs CFA, ou à défaut, des informations permettant de localiser un stock de cocaïne récemment saisi par les douanes maliennes. Les relations sont très tendues entre Bamako et Paris. Le dernier soldat français a quitté le Mali en août, après 9 ans de présence militaire.
Mali toujours, Goodluck Jonathan, le médiateur ouest-africain dans la crise politique dans ce pays, théâtre de coups d'État, deux coups d'État militaires depuis 2020, est arrivé mardi à Bamako pour s'informer de l'état du processus devant ramener les civils au pouvoir, en prélude au sommet de la CEDEAO prévu ce dimanche 4 décembre à Abuja. Selon l'ancien président nigérian, les leaders de la région veulent boucler l'année et demandent qu'on leur fasse un briefing complet sur le programme de la transition. La CEDEAO fait pression depuis plus de 2 ans sur la junte pour qu'elle rende rapidement le pouvoir aux civils. Cette dernière a fini par accepter de le faire en mars 2024, après des élections. Le sommet d'Abuja devrait également aborder la situation de 46 soldats ivoiriens retenus depuis juillet au Mali, source de fortes tensions entre la Côte d'Ivoire et Bamako. le chef militaire du Soudan a publié lundi des décrets visant à geler les activités des syndicats, contrôler leurs finances et prendre leur direction, selon une déclaration du Conseil souverain dirigé par le général Abdel Fattah al-Burhan. Le point avec Nanit Talani.
Le général Fattah al-Burhan a ordonné la formation d'un comité chargé d'examiner et de prendre le contrôle des finances des syndicats au Soudan et à l'étranger. Ce comité doit également former des comités de direction pour les syndicats jusqu'à la tenue de leurs assemblées générales. Depuis le renversement d'Omar el-Béchir en 2019, plusieurs professions, comme les journalistes et les avocats, ont entamé le processus de reconstruction de leurs syndicats. Les islamistes ont aussi entrepris de reconstituer les syndicats qu'ils contrôlaient et qui ont été dissous sous le gouvernement de transition. Les ordres donnés par Burhan lundi semblent être une tentative de limiter l'influence des islamistes. Il a émis ce mois-ci une sévère mise en garde aux islamistes et aux autres factions politiques contre toute ingérence dans les affaires militaires dans le cadre de pourparlers avec les partis civils pour former un gouvernement non partisan. Des discussions sont en cours en vue de mettre fin à l'impasse politique.
Pour revenir à l'Afrique de l'Ouest, le procès de plusieurs accusés dans l'attentat djihadiste de la ville balnéaire ivoirienne de Grand Bassam, qui avait fait 19 morts, dont des ressortissants européens en 2016, s'ouvre ce mercredi à Abidjan. Le 13 mars 2016, trois jeunes assaillants avaient remonté la plage de Grand Bassam, proche d'Abidjan et très fréquentée par des étrangers, pour prendre d'assaut plusieurs hôtels et restaurants, tirant à la Kalachnikov sur des clients en terrasse avant d'être neutralisés par les forces de sécurité ivoiriennes. Seulement quatre des accusés actuellement en détention provisoire à Abidjan devraient être présents à ce procès, les autres étant soit en fuite, soit détenus au Mali, selon une des avocates des parties civiles françaises. Revendiquée par la branche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, cette attaque djihadiste était la première survenue en Côte d'Ivoire. Le Mozambique a rouvert mardi pour la première fois en 2 ans un port-clé desservant un projet gazier de plusieurs milliards de dollars dans le nord du pays, après avoir délogé les djihadistes de la ville de Massimboa da Praia, a annoncé la radio publique. Des djihadistes liés au groupe État islamique s'étaient emparés il y a 2 ans de cette ville de la province de Cabo Delgado, riche en ressources naturelles, dont ils avaient fait leur siège de facto et où ils avaient coupé toutes les activités commerciales. Le président français Emmanuel Macron est arrivé hier soir à Washington pour une visite d'État, au menu des discussions stratégiques avec son homologue américain Joe Biden sur la guerre en Ukraine et le commerce, Jacques Aristide.
Le chef de l'État français entend évoquer le plan américain de soutien à la transition énergétique qui accorde de généreuses subventions aux véhicules électriques, batteries ou énergies renouvelables à condition qu'ils soient « made in America ». Paris cherche des exemptions pour quelques industries européennes. Le rendez-vous doit également permettre aux deux pays alliés d'afficher leur unité dans le soutien à l'Ukraine. Ce mercredi, après avoir parlé de coopération spatiale avec la vice-présidente Kamala Harris, en présence des astronautes français Thomas Pesquet et Sophie Adenau, d'environnement avec des parlementaires américains et de nucléaire civil avec des acteurs de la filière, Emmanuel Macron s'adressera à la communauté française, puis retrouvera en compagnie de son épouse Brigitte Macron, Joe et Jill Biden pour un dîner privé. Jeudi, Emmanuel Macron sera reçu à la Maison-Blanche après un entretien au bureau ovale, une conférence de presse conjointe et une réunion avec les dirigeants du Congrès américain. Place au moment fastueux du dîner d'État. Vendredi, il se rendra à la Nouvelle-Orléans, la ville de Louisiane, pour des rencontres dédiées à la francophonie. Cette visite d'État est la deuxième pour Emmanuel Macron, qui a été l'invité d'honneur de Donald Trump en 2018.
Le président Joe Biden a reçu hier des parlementaires démocrates et républicains pour tenter d'éviter dans l'urgence une grève du fret ferroviaire avant Noël. Le Congrès doit agir pour éviter des débrayages massifs, a dit le président.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, le procès des personnes arrêtées suite aux manifestations du 20 octobre dernier a débuté mardi à la prison de haute sécurité de Korotoro. Le procès a été boycotté par le barreau du Tchad qui déclenche en même temps un arrêt de travail sur toutes les juridictions du pays pour exiger la libération de toutes ces personnes détenues pour non-respect de la procédure. De N'Djamena, notre correspondant André Kotmadjingar fait le point.
401 personnes arrêtées pendant et après les manifestations du 20 octobre qui ont été violemment réprimées sur 620 annoncées par le gouvernement et transférées à la prison de haute sécurité de Korotoro sont sur les bancs des accusés. 200 autres détenus font encore l'objet d'une enquête judiciaire. Accusés par les autorités de transition d'insurrection et de tentative de coup d'État, ces accusés sont passibles de 20 ans de prison à la perpétuité. Le barreau tchadien qualifie cette procédure de parodie de justice.
Le barreau du Tchad, fidèle à son principe de ne point cautionner la violation des règles procédurales, oppose un refus catégorique de plaider devant une juridiction de N'Djamena siégeant en dehors de son ressort territorial à Korotoro, dans une prison sans accès à la population au prétendu nom d'audience foraine.
Koulmam Nadjiro, secrétaire général de l'Ordre des avocats au barreau du Tchad. Pour elle, le fait que les forces de l'ordre ne relevant pas des autorités judiciaires arrêtent, enlèvent puis déportent les personnes pour les détenir à Korotoro est une violation des procédures prévoyant une assistance d'avocat ou une personne du choix du mis en cause.
Devant cette mascarade, le barreau du Tchad, attaché au respect des droits humains que le nouveau code de procédure pénale du Tchad protège, à travers ces dispositions allègrement violées par les autorités tant gouvernementales que judiciaires, décide de cesser toutes les activités, c'est sur toute l'étendue du territoire pendant la période de la tenue de cette audience dite foraine à Korotoro et exige que les personnes détenues arbitrairement au dit lieu puissent être libérées et ramenées purement et simplement à N'Djamena auprès de leurs familles respectives.
En boycottant ces audiences, le barreau du Tchad ne laisse-t-il pas une porte ouverte à un déni de justice? Le président du collectif des avocats de défense des personnes arrêtées, Maître Frédéric Dainone, donne son avis.
Déjà que l'État, en envoyant les gens à Korotoro, les a privés déjà du droit d'avoir une défense. Puisque étant à Korotoro isolé, ils ne pouvaient pas avoir l'assistance des avocats lors de l'enquête préliminaire. Ils n'ont pas pu avoir l'assistance non plus des autres défenseurs. Donc ce qui veut dire que dès le départ déjà, l'État avait fait le choix de les empêcher d'avoir des défenseurs. Alors, nous nous saurons donner notre caution à cette mascarade judiciaire.
L'ouverture de ce procès s'est déroulée loin des caméras et des micros, puisque même les médias publics n'ont pas relayé l'information. Pour le moment, c'est le silence du côté du gouvernement. Les autorités judiciaires qui sont sur place à Korotoro sont injoignables, faute d'inaccessibilité des moyens de communication dans la zone. André Kordoumadjingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Le M23 ne prend pas part au dialogue de paix qui se tient à Nairobi au Kenya entre le gouvernement de la RDC et les groupes armés et mouvements rebelles congolais. Kinshasa reconnaît qu'un calme précaire règne sur le terrain, mais refuse de s'asseoir à la même table avec les rebelles du M23 tant que ces derniers n'auront pas quitté les territoires qu'ils occupent. Eddy Issango a joint dans le Haut-Tchouru le porte-parole militaire du M23, le major Willy Ngoma.
Il n'y a pas la volonté politique de décanter la situation. Nous voulons le dialogue direct qui est considéré comme le seul moyen pour résoudre ces conflits. Mais subitement, ils ne nous ont pas invités, monsieur. Et le président a dit clairement, ce qu'elle a dit clairement, qu'il ne peut pas nous inviter, nous ne pouvons pas y aller.
Et vous avez demandé de rencontrer le médiateur et les facilitateurs. Est-ce que vous vous êtes adressé à eux par des circuits officiels? Quelles étaient ou quelle était la réponse?
Certainement. Seulement, nous avons demandé au président João Lourenço de l'Angola et le président honoraire, le président Uhuru Kenyatta, Kenyan, qui puisse aussi communiquer avec nous. Et nous avons utilisé les canaux appropriés, monsieur.
À Luanda, il y a une semaine et quelques jours, il avait été décidé que vous puissiez accepter la cessation des hostilités, mais aussi quitter les territoires que vous avez conquis après. C'est ce que le gouvernement brandit comme condition.
Monsieur, nous avons tellement dit, et le président Bertrand Bissimon a communiqué, l'a dit, il a martelé, l'a dit. Nous prenons acte de ces communiqués des ministres au sommet de Luanda et nous avons remercié sincèrement ces dirigeants qui cherchent la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Eh bien, nous avons déjà signé le cessez-le-feu unilatéral, nous le M23, depuis le 1er avril et nous les respectons scrupuleusement. Mais ce qui se passe, c'est le gouvernement qui ne veut pas signer le cessez-le-feu et il vient nous attaquer tous les jours avec la coalition FDLR, FRDC, Niatura, Codeco, mais non, il se travaille maintenant avec le Codeco. Donc il vient nous attaquer. De dire quoi? Qu'est-ce que nous allons faire? Mais nous répliquons à leur fait pour nous défendre uniquement, monsieur. Si vous nous demandez de quitter, dans cette zone où nous contrôlons, il y a nos familles qui sont déjà venues ici puisqu'ils ont fui. Ils ont tellement tiré l'épiné là où ils étaient, fracassés, malmenés, tués. On a mangé même leur chair humaine. Mais maintenant, ils sont avec nous ici. Mais vous nous demandez de quitter. Nous pour aller où? Mais nous ne refusons pas. Nous disons qu'il faut d'abord qu'il y ait un dialogue franc entre nous et le gouvernement. Et on te fera un modus vivendi, voire même un modus operandi.
Qu'est-ce qui doit être fait parce que le gouvernement, par le président de la République, dit qu'il ne peut pas s'asseoir sur une même table de négociation avec vous, les M23, tant que vous n'aurez pas d'abord accepté le cessez-le-feu et quitté les territoires que vous contrôlez?
Il est là. Il était en vidéoconférence, mais Codeco est là. Il a accepté d'être ensemble avec des Codeco qui tuent, qui massacrent les Congolais, avec les Niatura, avec les Mai Mai qui tuent, qui massacrent les Congolais. Mais ils sont là, ils ont accepté. Quel jour nous, les M23, nous avons tué la population? Tout ce qu'il dit, ce que nous disons, nous tellement nous sommes omnibilés par les dialogues francs et sincères.
Luanda a aussi prévu qu'au cas où un groupe armé ou un mouvement rebelle ne dépose pas les armes et ne quitte pas les territoires comme demandé, il y aura des actions. Et même le président rwandais, Paul Kagame, l'a dit à l'ouverture de ces négociations de Nairobi, qu'il y aurait des conséquences si un groupe armé comme le vôtre ne quittait pas les territoires comme demandé.
Le M23, c'est un mouvement politico-militaire congolais. C'est une affaire congolo-congolaise. Mais nous sommes obligés de nous défendre rien que ça, monsieur, puisque nous ne pouvons pas accepter que nous soyons exterminés.
Vous défendre de qui? Les armées de l'EAC, même si le président Paul Kagame vous a demandé à l'ouverture du dialogue de Nairobi de faire autant parce qu'il y aurait des conséquences?
Nous avons un seul président, au M23, qui s'appelle Bertrand Bissimon. Son vice-général-major, Soutal Makinga, et le secrétaire exécutif, Benjamin Bonipa. Nous n'avons pas de président.
Le major Willy Ngoma, porte-parole militaire du M23.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24h sur 24.
En Mauritanie, fonctionnaires et syndicalistes saluent l'augmentation des salaires et du salaire minimum, mais estiment que l'État peut faire plus, surtout dans un contexte de cherté de la vie. Ces augmentations ont été annoncées par le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani lors de son discours à la Nation à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance du pays, célébré le 28 novembre. De Nouakchott, notre correspondant Mohamed Diop fait le point.
Au quartier Peka, dans la banlieue sud de Nouakchott, Aboubakrine Sidi vit avec sa famille. Cet enseignant du fondamental a retenu du discours présidentiel à l'occasion de la fête de l'indépendance l'augmentation dès le 1er janvier des salaires de 20% pour la majorité des fonctionnaires et du salaire minimum qui passe de 80$ environ à 120$, soit une hausse de 50%.
Je me réjouis vraiment de cette augmentation. Cette augmentation, je l'attendais depuis presque une année.
Mais derrière cette joie se cache une inquiétude. Car face à la multiplication des charges dans un contexte de flambée des prix, le père est loin d'être sûr que cette augmentation va lui permettre de satisfaire l'ensemble des besoins de la famille.
Si les prix sont très élevés ici à Mauritanie, surtout le coût de la vie. Et j'ai des charges qui sont par exemple les frais de scolarité des enfants, les factures d'eau et d'électricité, les soins médicaux. Et elle peut quand même contribuer à l'amélioration de ma condition de vie en tant que père de famille. Mais si elle était quand même plus, ça allait être mieux.
Mieux, c'est ce que demande aussi Mohamed Lamine Ebi Mohamed Sidi. Il est le secrétaire général du syndicat Union Mauritanienne du Travail, UMT.
De toute façon, nous la considérons insuffisante. Mais à chaque fois qu'il y a une augmentation dans le cadre des salaires, nous le saluons. En tout cas, mieux vaut cela que rien du tout. Comme dit l'adage, nous prenons donc acte.
En effet, les centrales syndicales exigent de l'État une augmentation de 100% du salaire minimum, comme exprimé dans leur plateforme revendicative transmise à l'État lors de la fête du travail le 1er mai dernier. En tout cas, dans son discours, le président Razouani a en outre décidé le paiement d'une prime d'encouragement supplémentaire de $25 environ aux enseignants, professeurs et au personnel d'encadrement travaillant dans les écoles fondamentales et secondaires. Une prime qui va continuer tout au long de l'année scolaire. Mohamed Diop pour VOA Afrique, Nouakchott.
Au Rwanda, à l'approche des fêtes de fin d'année, certains habitants de la capitale Kigali craignent que la flambée des prix des produits de première nécessité ne les empêche de célébrer pleinement. De Kigali, notre correspondant Jean Damascène Manishimwe.
Habituellement vers la fin de l'année, les grands axes routiers de la capitale rwandaise Kigali sont particulièrement décorés pour la fête de Noël et du Nouvel An. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les préparatifs ne s'accélèrent pas comme à l'accoutumée et le commerce semble peu florissant. Les vendeurs déplorent la rareté des clients et attendent toujours l'ambiance de la fête.
Vraiment, je suis inquiète, on n'a pas de clients. Mais à l'approche des fêtes, nous avons importé assez de vêtements pour nos clients.
Ici, nous avons des cartes de Noël. Les gens peuvent se rassembler et jouer des cartes en échangeant sur l'année qui s'achève. Nous espérons que les clients viendront. Ils ont déjà commencé à venir.
Les prix sont partout en hausse. Quand il y a une inflation, les prix de tous les produits augmentent.
Les conséquences de la flambée exorbitante des prix sont également partagées par les consommateurs qui éprouvent les difficultés d'aborder les produits dont le coût ne cesse de grimper à Kigali. La crise économique se fait sentir partout et moi-même, je ne fais pas d'exception. Normalement, pendant les fêtes, on souhaite acheter des produits nouveaux. Mais sur le marché, les prix sont très élevés. Le divertissement est un autre aspect qui rythme la vie des Kigalois en fin d'année. Dans ce cadre, divers artistes sont entendus à Kigali, comme le chanteur et compositeur américain célèbre dans la musique sacrée, Travis Green, et le célèbre artiste rwandais, Masamba.
À la fin de l'année, j'aime bien fêter au Rwanda. Passer les Noël, bonne année avec les Rwandais. Quand on regarde que les choses ont augmenté, les prix sont à haut et que le mouvement a beaucoup baissé. Mais quand on regarde quand même et qu'on réfléchit très bien, tout le monde a besoin de s'amuser. S'amuser n'a pas de prix.
Même si les contraintes économiques risquent de nuire à l'ambiance des fêtes de fin d'année à Kigali, les citoyens se réjouissent de clôturer l'année sans aucune restriction sanitaire consécutive à la pandémie de Covid-19, contrairement aux deux dernières années. Jean Damascène Manishimwe pour VOA Afrique, Kigali.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde d'aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedouya, à la mise en onde, Georges Léonard Sagnou, à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram. pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.